RFI. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, braisés, grillés, frits, bouillis ou crus, nous mangeons de plus en plus de poissons et de crustacés. La consommation mondiale a doublé en 50 ans. Alors oui, nous sommes plus nombreux, mais nous en consommions 9 kilos par personne et par an il y a 50 ans, contre 20 kilos aujourd'hui. Ce sont évidemment des moyennes. Les Asiatiques en mangent plus, par exemple, que les Africains, mais les produits de la mer sont appréciés dans le monde entier et les projections démontrent que notre appétit est insatiable. Malheureusement, les poissons, comme tous les êtres vivants, ont besoin de temps pour se reproduire et d'un environnement sain. Or, la surpêche dégrade de nombreux milieux, notamment la pratique du chalutage qui consiste à racler le plancher océanique avec de lourds engins en capturant les espèces sans distinction ou presque, le tout à grand renfort de carburant. Dans un instant, nous vous emmènerons au large de la Tunisie dans le paisible archipel des Kerkena où la pêche traditionnelle a cédé petit à petit la place au chalutage qui ravage justement les fonds avec de lourdes conséquences pour la population. Mais scientifiques, pêcheurs et citoyens se mobilisent pour relancer la pêche traditionnelle à la sherfia, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un exemple parmi d'autres. Mais tout d'abord, faisons un point sur la situation mondiale avec notre invité.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Frédéric Lemanac.
Bonjour.
Vous êtes depuis 10 ans le directeur scientifique de l'association Bloom, fondée par Claire Nouvian en 2005 et qui se bat pour la défense de l'océan et de ceux qui en vivent. Alors sur votre site, vous décrivez une situation inquiétante. Donc je cite votre site. Les océans sont exsangues, surexploités, pollués et dévastés par des méthodes de pêche destructrices. Ils sont méthodiquement vidés de leur extraordinaire richesse. Longtemps pensée inépuisable, les océans sont pillés jusqu'à épuisement, loin des regards et des préoccupations de l'opinion publique comme des décideurs politiques. La situation est vraiment grave. Donc.
Oui, elle est grave pour l'océan, elle est grave pour la planète en général. Hein. Ce n'est pas vrai que pour le poisson ou les crustacés, malheureusement. Et c'est vrai qu'on a parfois quelques histoires qui sont positives. D'un point de vue biologique, on a vu par exemple la reconstitution des populations de thon rouge en Méditerranée. On a beaucoup parlé de cette espèce-là dans les années 2000. Et actuellement, on a quelque chose, une situation qui est un peu mieux que ce qu'elle était dans les années 2000. Mais globalement, quand on regarde les chiffres des scientifiques, des agences gouvernementales, etc., que ce soit l'ONU, la Commission européenne, on voit bien que les écosystèmes marins sont extrêmement dégradés. Très très soumis aux pressions humaines, la pollution, l'urbanisation, la destruction. Et la pêche est identifiée par les scientifiques de l'équivalent du GIEC pour la biodiversité comme étant le premier moteur de destruction de la biodiversité marine.
Alors pourtant, dans son rapport 2022 sur la situation des pêches et de l'aquaculture, la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, explique que le nombre de poissons et de crustacés provenant de stocks exploités à un niveau biologiquement durable est en augmentation.
Oui, et en fait, on se limite là à un petit peu la vision productiviste de la FAO, donc qui est un organe des Nations Unies et qui est aussi malheureusement le socle de la politique commune de la pêche en Europe, c'est que pour définir ce qui est pêché durablement ou ce qui est surpêché, on a des indicateurs scientifiques qui sont issus des années 40-50, de l'après-guerre, et qui ont pour but de maximiser les captures de poissons année après année. Mais il n'y a aucune considération pour les écosystèmes marins là-dedans, il n'y a aucune considération pour la manière dont le poisson a été pêché, ni par qui, ni comment, ni avec quelle taille de bateau. Et donc en fait, on a une situation où effectivement on peut avoir des situations locales qui s'améliorent, mais au détriment des emplois ou des économies littorales, ou alors parce qu'on va retrouver des fonds marins qui sont très abîmés, qui vont être sablo-vaseux, dans lesquels on va avoir quelques espèces qui vont être très très productives, comme des poissons plats ou des crevettes par exemple. Mais ça ne veut pas dire que l'écosystème marin dans son ensemble va bien.
Alors, cette vision productiviste de l'après-Seconde Guerre mondiale, ça me rappelle l'émission que nous avons fait la semaine dernière sur l'agriculture en Europe. Finalement, ça se rejoint tout ça. Alors le problème, c'est le développement de la pêche industrielle. Chez Bloom, vous le pointez régulièrement, mais vous n'êtes pas les seuls. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire comment cela se passe? Parce que c'est loin de nos yeux.
La pêche industrielle, elle est difficile à déterminer, à définir, puisqu'en fait, il n'y a pas de définition internationale de la pêche industrielle. Il y a une définition, par exemple, en Europe, de ce qu'est la petite pêche côtière. Et donc, c'est des bateaux qui font moins de 12 mètres et qui utilisent des méthodes de pêche qu'on appelle passives. C'est-à-dire, ça va être, par exemple, des lignes ou des casiers ou des filets qui vont être posés. Et on a le poisson qui va se prendre sur l'hameçon ou dans la maille du filet, mais il n'y a pas de bateau qui va courir après le poisson, comme c'est le cas, par exemple, pour les chaluts. Mais bien évidemment, on a aussi une panoplie de bateaux de pêche qui font un peu plus de 12 mètres, qui font 12, 15, 16, 18 mètres. Ça ne correspond pas évidemment à de la pêche industrielle comme on peut l'imaginer avec des bateaux qui sont immenses. Il faut savoir que les plus gros bateaux de pêche en Europe font jusqu'à 145 mètres de long. Donc on a des capacités de capture de poissons qui sont monstrueuses, de plusieurs centaines de tonnes par jour. Et évidemment, c'est ça le problème. Le problème, c'est que la capacité de destruction des écosystèmes marins et aussi des emplois, des économies littorales, des savoir-faire, augmente de manière exponentielle avec la taille des bateaux.
Alors vous parlez de bateaux qui ont des capacités de capture de plusieurs dizaines de tonnes à l'heure, voire de centaines de tonnes à l'heure pour les plus grands bateaux.
Oui, par exemple, au mois de décembre, on a eu une alerte d'un pêcheur du côté de Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France, qui nous a dit avoir capté un signal radio. En fait, tous les bateaux communiquent par radio pour s'identifier, dire où ils sont, etc. Et on avait le Prince Bernard, qui appartient à l'entreprise française France Pélagique, qui se vantait à la radio d'avoir capturé 100 tonnes de harengs en 30 minutes. Plus que les captures de n'importe quel artisan sur une vie entière, en fait, en l'espace d'une demi-heure ou une heure. Donc imaginez ces bateaux-là qui restent en mer deux tiers ou trois quarts de l'année. En fait, on est sur des moyens de destruction qui sont absolument irréconciliables avec la capacité des écosystèmes marins à se régénérer.
Alors, dans ce contexte, comment vérifier qui pêche quoi ?
C'est une question qui est malheureusement sans réponse véritable, puisque ces bateaux-là sont tellement énormes et capturent tellement de poissons que c'est juste humainement impossible de contrôler, par exemple, leur capture. Certains journalistes aux Pays-Bas, il y a maintenant 2 ans, ont montré que pour autour de 150 000 tonnes de poissons débarqués chaque année dans les ports néerlandais, on avait 2 inspecteurs. Et donc, on est dans une situation où globalement, les statistiques sont celles des industriels, et donc il faut les croire. Mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de sous-déclarations, de triches, de mensonges dans la pêche industrielle. C'est vrai aussi pour la pêche artisanale, mais l'échelle de triche est bien évidemment sans commune mesure.
Alors toujours selon le rapport de la FAO que je citais tout à l'heure, le nombre total de navires de pêche était estimé à 4 millions en 2020. Ça serait 10% de moins par rapport à 2015. Donc ça veut dire qu'il y en aura quand même de moins en moins malgré tout ?
Oui, on a une diminution du nombre de bateaux. C'est vrai au niveau mondial, c'est aussi vrai au niveau français. On voit très clairement, année après année, une réduction du nombre de bateaux. Mais les bateaux qui sont cassés sont souvent les petits bateaux. Et donc, en fait, on a une concentration des droits de pêche et des quotas et de la puissance de pêche entre les mains de quelques intérêts qui sont de plus en plus concentrés. Et ça, c'est évident en Europe. On voit des multinationales, notamment néerlandaises, qui ont vraiment une vision très hégémonique de la pêche industrielle en Europe, qui ont racheté tous les armements industriels européens en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, etc., qui possèdent la quasi-intégralité de la force industrielle de pêche européenne.
Et ils pêchent dans le monde entier.
Et ils pêchent dans le monde entier, évidemment. On a des noms qui peuvent parler, par exemple en Afrique, le Anne Silena, le Margiris, qui sont des très très gros bateaux néerlandais qui vont pêcher au large de la Mauritanie, du Maroc, du Sénégal, etc. Mais qui vont aussi, une partie de l'année, pêcher quasiment au nord du cercle arctique ou qui vont pêcher dans le Pacifique à l'ouest du Chili. Donc on a vraiment une emprise spatiale de ces bateaux-là qui est mondial. Un bateau, chaque année, peut faire le tour de l'Atlantique et aller pêcher dans le Pacifique sans aucun problème.
Et donc la pire des pratiques, c'est le chalutage.
Alors effectivement, le chalutage de fond, ça a été identifié comme la méthode de pêche la plus destructrice depuis de très nombreuses années. Et d'ailleurs, dès son apparition, autour du 15e, 16e siècle, hein, c'est une méthode de pêche qui est très très vieille. On pouvait faire du chalutage à la voile sur des petits bateaux à l'époque. Dès son apparition, c'est une pratique qui a été condamnée très fermement, notamment en Europe où son utilisation était condamnée de la peine de mort. Et donc très très vite, tout de suite, on s'est aperçu que le chalutage de fond était très néfaste pour les écosystèmes marins, puisque en fait, on va tracter un engin qui est lourd, avec une certaine vitesse, sur des écosystèmes qui sont fragiles, qui sont complexes, avec une diversité qui était abondante. Et donc, on va générer de la destruction des habitats, mais on va aussi générer énormément de captures d'espèces accessoires qui ont un rôle évident pour les écosystèmes marins, mais qui n'ont aucune valeur commerciale.
Pour comprendre les ravages causés par le chalutage, je vous propose d'aller en Tunisie, au nord du golfe de Gabès, dans l'archipel paisible de Kerkena. Fonctionnaire ou pas, dans ces 14 îles, tout le monde pêche depuis son plus jeune âge. C'est un moyen de subsistance, mais aussi un mode de vie ancré dans les traditions de ce peuple tourné vers la mer. Autrefois, entre les éponges et les sèches, la saison de pêche durait environ 5 mois. Mais depuis quelques années, les éponges ont disparu, en même temps que la pêche traditionnelle à la cherfia, classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est le chalutage, plus économique et plus facile, qui l'a remplacé. Les fonds marins sont raclés, ce qui détruit les herbiers de Posidonie et les herbiers tigrés. Des herbiers qui sont pourtant des refuges pour la biodiversité et qui constituent une barrière contre l'érosion du littoral. Des scientifiques, des pêcheurs et des citoyens alertent et essayent d'enrayer ce carnage. Alice Roy est allée à leur rencontre.
Ici, sur l'archipel de Kerkena, tout le monde pêche depuis son plus jeune âge. C'est un moyen de subsistance, mais c'est aussi un mode de vie ancré dans les traditions de ce peuple tourné vers la mer. Alors la saison de pêche durait autrefois pendant seulement 5 mois, mais depuis quelques années, la ressource halieutique s'affaiblit et entraîne dans son sillage la perte de la pêche traditionnelle, qui est classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO, au profit du chalutage, qui est plus rentable et facile à mettre en œuvre. Mais seulement, la pêche au chalut dégrade les herbiers de Posidonie et les herbiers tigrés qui couvrent les hauts fonds sur des kilomètres carrés autour de l'île. Alors non seulement refuge pour la biodiversité et zone de reproduction pour les poissons, ces herbiers freinent le phénomène d'érosion du littoral, qui est une des conséquences directes de l'élévation du niveau de la mer, cette menace qui plane sur l'archipel. Alors scientifiques, pêcheurs et citoyens œuvrent au quotidien pour préserver l'archipel de Kerkena.
C'est une chanson qui veut dire que la pêche du poisson n'est pas accessible à tout le monde. Et aussi, elle décrit les types traditionnels de pêche.
Et vous pensez quoi des bateaux à moteur qu'on entend là avec les gens qui pêchent donc au moteur, au chalut ?
Ceux du chalutage belgique, ils sont vraiment criminels, quoi. Elle a dit criminels parce qu'ils sont en train de balayer tout le fond. Et à Kerkena, les eaux sont peu profondes. Donc ils sont en train de faire le chalutage belgique à 5-6 mètres. Donc c'est vraiment grave pour l'environnement.
Bienvenue à Kerkena, à l'archipel de Kerkena. L'archipel qui se situe à peu près à 20 km de Sfax, 300 km au sud de la Tunisie, de la capitale. C'est un archipel qui est constitué de 14 îles, dont 2 îles habitées. Les 12 autres îles, ils sont des îlots sauvages. Donc il y a beaucoup de lagunes. Quand tu vois Kerkena, tu vois le 2 niveaux de mer, puisque on estime que le périmètre c'est 150 km approximatif. Il y a toujours des nombres, il y a des gens qui disent 140, tellement l'impact du changement climatique, il y a des côtes qui avancent, qui avancent, donc du coup il n'y a pas un périmètre bien clair. Abdelrahman Chakchouk, ou tout simplement Abdou, guide vélo et pêcheur amateur.
Pour se rendre compte du phénomène d'élévation du niveau de la mer, direction la côte, en compagnie de Faisal Mechri, responsable de la protection du littoral à la municipalité de Lille.
À Rimla, le centre de l'île, les principales arbres, c'est les palmiers. Et ces dernières années, c'est les oliviers qui viennent pour prendre la place du palmier. Parce que comme vous voyez, il y a beaucoup de dégradation. Comme on voit là, c'est des troncs de palmiers morts à cause de la salinité des terres. Et les gens, ils optent pour planter des nouvelles arbres d'oliviers.
Donc là, autour de nous, on a des grands champs d'oliviers parsemés de palmiers. C'est très plat. Quelle est l'altitude ?
L'altitude de Kerkena, l'altitude maximale, c'est 13,70 m par rapport au niveau de mer. Mais on est dans certaines zones, on est dans des zones qui sont plus basses du niveau de mer. D'où les problèmes d'inondation, la difficulté d'évacuer les eaux pluviales vers la mer et beaucoup de problèmes de ce genre-là.
Moi, je suis né ici à Kerkena. Depuis 18 ans, je travaille pour la municipalité et chaque semaine, on fait des tours de l'île pour remarquer les variations climatiques et les remontées du niveau de mer. Et dans certains moments, on ne peut pas passer sur les pistes côtières à cause de la remontée du niveau de la mer. On constate chaque jour la perte de périmètre sur l'archipel. Je suis un technicien principal à la municipalité de Kerkena et je suis originaire de cet archipel. Certaines études ils vont jusqu'à dire qu'aux environs de 2100, peut-être le deux tiers de l'archipel vont être sous le niveau de la mer. Donc on va perdre le deux tiers du territoire de l'île. Donc on est 150 km, donc on va se retrouver avec seulement 50 km. On se dirige vers la localité Kraten, l'extrémité nord de l'île. À gauche et à droite, c'est la mer. C'est une route qui a été créée pour relier la localité Najet à la localité Kraten. Et ils ont laissé le passage naturel de la mer. Avant, il n'y avait pas de route revêtue ici. Donc l'altitude des terrains, c'est, des deux côtés, c'est la même. Donc l'eau de mer arrive jusqu'ici.
Jusque devant la route.
Et l'une des causes, c'est la route qui a été créée sans laisser suffisamment d'espace pour laisser la mer communiquer entre les deux rives. Il y a une invasion sur les terres voisinantes. Et c'est l'un des problèmes très remarquables. On a fait pas mal de projets qui ont causé des problèmes environnementaux.
Donc l'érosion, elle n'est pas due uniquement à des raisons climatiques, elle est aussi due à des raisons humaines.
Dans certaines zones, oui. Il y a des gens qui font des activités d'extraction de la terre, des extractions de pierre sur les plages. Avant, c'était la seule source de moyens de construction pour construire les maisons. Ils utilisent le sable des plages. Mais depuis plus que 20 ans, il n'y a plus d'extraction de sable de la plage pour les constructions. Donc avant, c'était des erreurs commises par l'être humain qui ont causé le recul de la ligne de côte.
Il y a les routes aussi ?
Et les routes aussi, lorsqu'on a construit des routes pour lier les différents îlots de l'archipel et pour aussi relier les localités, les dispositifs qui ont été mis en place actuellement sont à revoir. On est sur la digue de protection contre l'érosion marine. Devant nous, il y a la plage de Kraten. Là où il y a les barques à voile, les barques à rame, certains barques à moteur. Il y a des pêcheurs qui sont sur la plage. Ce site-là, avant, il était très loin de la côte, de la ligne de côte de la mer. Mais à cause de la remontée du niveau de la mer, elle se trouve à deux pas des terres agricoles.
Et ça a quoi comme impact ?
C'est la salinisation des terres, la perte de périmètre qui est agricole et la dégradation des herbiers et de la faune sur l'île. Il y a des zones où chaque jour on remarque la remontée du niveau de la mer. Les pistes côtières qui permettent aux citoyens d'accéder à leur maison, elle est totalement envahie par l'eau de mer, journalièrement. Ici, sur ce chemin-là, on voit les herbiers de Posidonie mortes qui sont sur le chemin qu'on prend maintenant. Mais lorsqu'il y a une haute marée, on ne peut pas arriver à marcher sur cette zone parce qu'il va être envahi par l'eau de mer. C'est notre territoire, c'est notre vie. Personne des résidents de Kerkena n'a la volonté de quitter l'archipel pour vivre dans un autre lieu. Ici, on est né et on va mourir et on va laisser nos enfants pour poursuivre la vie sur cet archipel-là. On est très rattaché à cet archipel et il n'y a pas un autre endroit qu'on peut habiter et être à l'aise dans notre zone. Tous les citoyens de la Tunisie, lorsque vous dites Kerkena, ils vont dire c'est le Jannah. C'est le paradis pour nous. Arkna est le Jannah. Kerkena, c'est le paradis. Lorsqu'on sait que, par exemple, les Pays-Bas sont sur un niveau très bas par rapport au niveau de la mer, donc ils sont toujours là, ils luttent, ils vivent, ils poursuivent leur vie. Donc nous aussi, on doit peut-être s'adapter à ces changements-là à travers les échanges d'expériences avec les autres îles de Méditerranée et des zones qui sont menacées par les effets du changement climatique. On doit se mobiliser pour trouver des solutions pour protéger nos côtes contre ce phénomène de l'élévation de l'eau de mer. Et de s'adapter, parce que lutter contre les changements climatiques, c'est pratiquement impossible. Donc on doit s'adapter, on doit chercher des solutions pour préserver nos côtes.
Et comment on les protège ?
On doit préserver les herbiers de Positonie qui sont uniques sur la Méditerranée pour l'archipel de Kerkena. Ces herbiers de Positonie, ils ont un double rôle. Un rôle pour préserver la biodiversité sur les espèces de poissons et ça crée des zones pour la reproduction des espèces qui sont dans la mer. Et les banquettes de Posidonie dans la partie nord de l'île, ils doivent être préservés parce que c'est une sorte de barrage contre l'érosion marine. Ça diminue les courants d'eau et les impacts des vagues sur les côtes.
Yvonne Penzarti, vous êtes biologiste marin, vous travaillez dans la nouvelle aire marine protégée.
On est en train de voir un peu des petites banquettes Posidonie et des Cymodocées. On va souvent sur la plage pour essayer de voir les banquettes de Posidonie qui se forment, s'ils sont sortis naturellement ou ils sont venus à cause de l'arrachage, de cause de chalutage.
C'est quoi un herbier de Posidonie ?
Ce sont des magnélophytes marines, ce sont des plantes à fleurs qui ont une particularité très incroyable parce qu'ils ont des fleurs, carrément des fleurs quand il vient de faire la floraison sous l'eau. Elle a une racine comme les racines des plantes qui se forment tout au large des îles Kerkeniennes, qui forment un barrière récif et aussi des atolls. L'herbier de Posidonie est endémique au Méditerranée et les côtes tunisiennes représentent une énorme biodiversité et richesse en ces herbiers de Posidonie.
Donc là on est en train de marcher sur la plage et puis on voit donc ces herbiers un peu secs. Est-ce que ce sont des herbiers qui ont été arrachés à cause du chalutage ou est-ce que c'est la vie normale d'un herbier de Posidonie de se retrouver sur une plage ?
C'est normal de trouver de la Posidonie sur la plage, notamment en saison d'hiver, parce que c'est la saison de renouvellement des feuilles de Posidonie. Du coup, c'est normal, mais par rapport à notre place et par rapport au chalutage qu'on subit, on ne sait jamais. On ne sait vraiment jamais si ces petites banquettes de Posidonie, c'est au fait naturellement ou arraché par le fait des pêcheurs de chalut. Les herbiers de Posidonie des îlots de Kerkena sont vraiment des espèces résistantes par rapport aux activités naturelles comme les courants, les fortes courants des marées, tout ça. Mais ils sont vraiment fragiles par rapport aux activités anthropiques comme le chalutage, le pêche illégale, le dragage des fonds. Tout ça fragilise vraiment la résistance de cette espèce endémique de Méditerranée.
Il y en a beaucoup autour de Carquena, des herbiers de Posidonie et des herbiers
oui,
de Tigré.
Oui, il y en a beaucoup. Elle est vraiment entourée de Posidonie. Mais le problème maintenant, ils sont vraiment en train d'être détruits par le chalutage. Ils sont en train d'arracher le fond et de le détruire.
Au port de Kraten, juste à côté de la plage où nous sommes, Boulbeba et sa sœur Sarah s'apprêtent à embarquer à bord de leur petite barque en bois pour aller relever les nasses et les filets. Et ces deux pêcheurs se battent pour faire perdurer la tradition de la pêche traditionnelle sur les îlots.
Sbah al-nour. Ya khay chhal. Labas alik. Voilà, on a pas d'activité autre à faire. Nous on a
quand le Kerkenia n'a que la mer. La seule activité qu'il peut pratiquer, c'est la pêche. Et même le médecin, l'ingénieur, le professeur, il a toujours une deuxième activité qui est la pêche. Le Kerkenia, il est toujours lié à la mer. Il est né dans la mer, il reste toujours lié à la mer.
On a quand le parc. بالحق إذا موت نحب نموت في البحر خاطر نحب ونحب نموت في غرقنا خاطر نحب غرقنا ونحب البحر.
Si je meurs, j'aimerais mourir dans la mer. Ils disent le Kerkenia. Voilà.
Boulbeba celui-ci. Je suis de base un pêcheur. J'ai 35 ans.
ولدي اسمع. ولدي ملك الجمال. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يخليك.
On s'apprête à monter sur le bateau pour partir relever les nasses. Le vent souffle fort, il est 7h du matin, le soleil se lève, il y a des couleurs magnifiques et on voit au loin les charfia, ces constructions, ces champs disposés en pleine mer qui sont construites à partir des feuilles de palmiers qui poussent naturellement sur l'île. On monte à bord de la barque. La barque est jonchée de filets et de l'herbier de Posidonie. Yop là, c'est bon. Shukran,
Salam.
Et là, on vient d'embarquer à bord de la barque de Sarah qui est en train de ramer. C'est pas trop lourd.
On est juste à côté de port de Kraten. On est sur mon bateau. Il est de environ 5 mètres. Il est de couleur bleue et blanc parce qu'on aime bien cette couleur comme kerkenien. C'est notre couleur. Il est fait en bois. Je peux travailler seulement quand il fait beau temps. Il fait vraiment très beau.
Sara Swissi, Bahara,
pêcheur.
J'ai
42 ans.
Donc là, on est parti pour 3 heures de pêche au nord des îles Kerkenna. L'eau est très très claire et peu profonde.
Ça, c'est entre 1 mètre et demi, 2 mètres, c'est tout. Mais si tu avances un peu, tu trouves 4 mètres, 7 mètres.
On est 7h du matin, on part vers la charfia. On a 4 nasses à collecter en espérant avoir du poisson pour vendre.
C'est
une technique de pêche traditionnelle.
Traditionnelle, bien sûr. Ouais.
En quoi consiste la technique de pêche traditionnelle ?
On est en charfia.
La charfia, c'est une technique très ancienne. Elle date à partir du 16e, 17e siècle. Elle était créée à partir de palmiers, la végétation la plus abondante à Karakna. Donc les pêcheurs installent en fait des barrages suivant les courants marins.
Il y a des pêcheurs.
Ils sont collectés avec des nasses fabriquées eux-mêmes à partir de palmiers. Donc cette technique reste le meilleur système pour préserver la richesse marine à Karkana.
Pourquoi les Sharfia, c'est le meilleur système pour préserver les ressources marines de Karkana?
La Sharfia est une amie de l'environnement.
La Sharfia n'affecte pas les fonds marins comme la pêche au chalut. Le chalut, il racle les fonds marins.
En 2017, Cheb Farid Khsharem,
un insulaire qui s'appelait Farid Khsharem, un professeur d'histoire géographique, il a lutté pour classer la Sharfia dans le patrimoine mondial de l'UNESCO avec l'aide des associations de Qrat. On est fiers d'avoir la Sharfia classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Donc là, Sarah est penchée par-dessus bord, au-dessus de la barque, et tire le filet.
Je le ramasse le filet. Oui, ça. Comme ça. Il n'y a pas, parce que...
Elle a ramassé le filet, elle n'en a pas trouvé beaucoup des espèces de poissons et de sèches à cause de chalutage et à cause des mauvais temps. Mes grands-parents et tous les gens d'avant se pêchent d'une manière traditionnelle, donc j'essaie de continuer cette tradition de pêcher traditionnellement.
Et en quoi c'est important pour vous de pêcher de manière traditionnelle?
Pour protéger la nature, pour protéger l'environnement, notre mer, et aussi pour le protéger pour nos futurs enfants, pour qu'ils trouvent quelque chose à manger après.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le métier de pêcheur?
Cet métier était un challenge pour moi parce que pas tout le monde accepte une femme pêcheur. Du coup, je fais ça pour faire manger à mes enfants et même j'aide mon mari aussi à la pêche en été. Mais je fais ça parce que je l'aime trop, j'aime trop la mer et parce que j'aime trop pêcher.
Depuis quand vous pêchez?
Depuis 20 ans.
Est-ce que vous avez observé des évolutions au niveau de la pêche depuis que vous avez débuté votre métier?
On voit de plus des espèces qu'on ne voyait pas avant, les espèces invasives comme ce crabe bleu qui déchire nos filets. La mer n'est plus comme avant à cause des changements climatiques, à cause de chalutage, à cause de pêche illicite, aussi à cause de la pollution. Il n'y a plus la mer d'avant, il n'y en a plus les espèces qu'on connaisse. Donc il y en a trop de changements.
Comment vous voyez l'évolution et le futur de votre métier de pêcheur?
Pour la future de la pêche, si on ne préserve pas la mer, on n'arrive à rien à évoluer dans cette métier à cause de chalutage benthique, à cause des nasses en plastique. S'il ne préserve pas la mer, ne la protège pas, je ne vois aucun futur pour mon métier. Moi, j'ai l'espoir et je vais continuer jusqu'au bout. Mais si le pêcheur n'est pas conscient, si le pêcheur ne protège pas la mer, ne protège pas le futur de ses enfants, il n'y aura rien à voir. Regardez ce filet à côté de la Posidonie. Je les mets le matin ici parce que les espèces de poissons et de sèches préfèrent la Posidonie comme un habitat. Donc je mets mon filet ici pour amener de plus de poissons.
Quel est le lien entre la pêche et les herbiers de Posidonie?
L'important de la Posidonie, c'est qu'elle couvre des centaines de kilomètres carrés tout autour de l'île, donne des abris pour les poissons et elle assure l'oxygénation des eaux.
Quand je jette le filet à côté de ces barrières de Posidonie, je trouve plus d'espèces que j'aimerais les voir plus souvent.
On a des dorades, des loups, des crabes bleus, des sèches. Ça va.
Combien de pêcheurs ici pratiquent encore les techniques de pêche traditionnelles ?
Il y a 60% de pêcheurs qui restent pratiquer le technique de pêche traditionnelle. Et les autres, ils ont changé les techniques avec des nasses plastiques, avec des chalutages, avec. Et c'est pas bien pour l'environnement, pour les poissons, les petits poissons et tout ça.
Et pourquoi les pêcheurs se tournent vers d'autres techniques que les traditionnelles ?
D'amour le bahar.
La surexploitation des ressources a poussé les pêcheurs à utiliser les autres techniques à cause de l'abondance des poissons qui sont de plus en plus rares.
La pêche artisanale utilisée par nos ancêtres sont des techniques ancestrales passives qui ne détruisent pas cet écosystème et la valeur et le rôle écosystémique de ces herbiers. Morsi Feki, docteur en écologie marine, d'origine les îles Karkna, je suis le représentant régional de l'Agence de protection de l'aménagement du littoral au sein du ministère de l'Environnement. Et je suis activiste dans plusieurs ONG et think tanks. Kerkena est entouré par des hauts fonds. Il y a des zones où il y a des herbiers de Posidonie, pratiquement uniques en Méditerranée. Pour cela, il est protégé. Ces herbiers sont vulnérables à cause de pêcheurs de mini-chalutiers.
Quel est le risque de la disparition des herbiers de Posidonie à cause du chalutage ?
L'accélération du phénomène d'érosion, car ces herbiers de Posidonie sont alentour des îles Karkna, donc ils jouent le rôle d'un ralentisseur, d'un amortissement des vagues. Lorsque ces herbiers sont arrachés, donc cet effet n'existerait pas. Donc c'est le phénomène d'érosion, de l'élévation du niveau de la mer est accéléré et accentué à cause de ces effets anthropiques. En plus, il y a une diminution de ressources naturelles, car ce sont des microclimats, des pentes, des poissons, des sèches, des poulpes. Donc si ces microclimats n'existaient pas, les poissons migrent vers d'autres zones qu'il y a de ces herbiers de Posidonie. Ça joue un rôle de niche écologique pour les poissons et pour les poulpes et les sèches et d'un ralentisseur des vagues et des eaux de large.
La pêche traditionnelle, elle est en train de protéger les herbiers de Posidonie parce que, comme la charfilla, par exemple, c'est une pêcherie fixe. Le pêcheur essaye de protéger ces herbiers qui forment un habitat pour les poissons. Hans Benzarti, biologiste marin, je travaille pour l'association Kraten pour l'aire marine protégée et côtière des îles au nord de l'archipel de Kerkena. C'est une moyenne de protéger ces herbiers mieux que avoir un chalut et balayer le fond et enlever tout et arracher, vraiment, ils sont en train d'arracher le fond et de le détruire.
Est-ce qu'on peut observer une évolution des herbiers de Posidonie autour des îles Kerkena ?
Par rapport aux années précédentes, la superficie de Posidonie a diminué et c'est à cause de chalutage, de pollution, des changements climatiques aussi. C'est l'habitat de la biodiversité marine. Et en plus, elle est en train de protéger notre côte contre l'érosion. Donc c'est vraiment une catastrophe si les herbiers disparaissent.
Est-ce qu'ils ont besoin d'être protégés, ces herbiers de Posidonie ?
Oui. Vu à l'activité anthropique et humaine des pêcheurs et la surexploitation de la pêche surtout, on a vraiment besoin de protéger ces herbiers. On est en train de créer une aire marine et côtière protégée qui s'étale tout au long des îles au nord de l'archipel de Kerkena, de 1085 km² de mer et 9,5 km² de terre, pour la protection des herbiers de Posidonie. La pêche illégale est en train de détruire les ressources halieutiques, de racler les fonds et d'arracher la Posidonie. Du coup, on se trouve dans une situation que l'archipel n'est plus protégé de l'érosion. Du coup, on doit maintenir ces activités de pêche traditionnelle pour protéger notre île et notre futur.
Ce reportage d'Alice Roy a été réalisé par François Porcheron. Merci à l'association Kraton pour l'accueil et à Hans Benzarti et Tahar Soucy pour les traductions. Frédéric Lemanac, je rappelle que vous êtes le directeur scientifique de l'association Bloom. Alors, dans ce reportage, on entend des pêcheurs qui choisissent de faire du chalutage avec des petites embarcations hein, de 4 à 6 mètres sur lesquelles ils ajoutent des moteurs et un filet. Rien à voir avec les énormes bateaux de plus de 100 mètres dont vous parliez juste avant le reportage. Ce n'est donc pas de la pêche industrielle, mais c'est ravageur quand même.
Oui, c'est ravageur et ça montre bien d'ailleurs que la situation n'est pas... blanc et noir, on a vraiment aussi des pêches destructrices parmi les pêcheurs artisans. Ça peut aussi être le poison, l'explosif, par exemple, dans d'autres parties du monde. Donc, c'est pas parce que c'est petit que c'est tout beau. Il faut vraiment pas faire cet amalgame-là.
Il y a des endroits du monde où on pêche à l'explosif.
Oui, dans les Balkans ou en Asie du Sud-Est, on jette des bâtons de dynamite dans l'eau et tout remonte. Donc, c'est extrêmement efficace. Comme le poison, on met du poison dans l'eau qui va asphyxier des poissons et donc on pêche de manière très, très efficace. Mais évidemment, c'est très destructeur et donc c'est rentable à très très court terme, comme l'est d'ailleurs le chalut de fond, puisqu'en fait ça va permettre de capturer des quantités de poissons qui sont bien plus importantes évidemment qu'avec une ligne ou avec un petit filet ou un casier, mais comme on détruit la capacité de l'écosystème à se régénérer et à produire une diversité abondante, en fait on se tire une balle dans le pied assez rapidement.
Alors là, dans le reportage, ce ne sont pas des pêcheurs européens qui viennent, c'est vraiment les habitants des îles Kerkena qui pêchent. Mais selon l'ONG Fishac, les petits chalutiers qui opèrent illégalement dans le golfe de Gabès sont passés de 450 en 2018 à 576 en 2022. Donc il y en a de plus en plus parce que justement, le système d'exportation vers l'Union européenne fonctionne bien. Et finalement, la règle, c'est plus on pêche, plus on gagne, mais c'est une vision à court terme.
C'est une vision à court terme et donc il y a déjà des pêcheurs qui s'en rendent compte, y compris ceux qui font la promotion des méthodes de pêche ancestrales. Et donc, malheureusement, on sait quel va être le chemin suivi par ces pêcheurs qui s'industrialisent, même si ça reste à des échelles très petites par rapport à ce qu'on voit en Europe. Mais clairement, le développement du chalut dans cette zone-là, une très mauvaise nouvelle pour les écosystèmes marins, une très mauvaise nouvelle pour les communautés côtières aussi, pour les économies littorales, pour les savoir-faire. Et donc, malheureusement, on voit bien qu'ils prennent la même route que ce qu'on a fait en Europe depuis en gros un siècle, alors qu'il faudrait faire exactement l'inverse.
Alors justement, avec des chercheurs de l'École des hautes études de sciences sociales, le Chiffre Project, les écoles agronomiques de Rennes et de Paris, vous venez de publier un rapport qui propose des solutions vertueuses pour une transition sociale et écologique de la pêche en France, mais ça peut inspirer d'autres pays. Alors vous dites par exemple qu'il faut démarrer par un bilan marin du secteur et pas raisonner uniquement en termes de rentabilité. C'est quoi un bilan marin ?
Eh bien, c'est ce que l'administration française et l'Ifremer n'ont pas fait depuis toutes ces années. Et donc, il a fallu attendre 2024 et que Bloom s'empare du sujet pour faire un panorama, pour faire une photographie de ce qu'est le secteur de la pêche en France. Et donc, on a regardé des indicateurs environnementaux, sociaux, économiques, pour regarder si les différents segments de la flotte de pêche en France, donc les petits bateaux, les moyens bateaux, les grands bateaux qui utilisent différentes méthodes de pêche, sont censés, d'un point de vue de la création de l'emploi, de l'utilisation des finances publiques, de l'utilisation du carburant, de l'abrasion des fonds marins, des captures accessoires, etc., etc. Donc on a toute une série d'indicateurs pour les différents grands types de pêche en France et on a une vision qui est désormais extrêmement nette de là où on devrait aller. Et ce que notre rapport changé de cap, que vous pouvez retrouver sur le site de l'association Bloom montre, c'est qu'on a un besoin de faire une transition et d'opérer un changement de cap vers la pêche artisanale, parce que c'est elle qui génère des emplois, c'est elle qui valorise le poisson qui est pêché, c'est elle qui ne dépend pas des subventions publiques pour son modèle économique. Et en fait, tous les indicateurs quasiment sont au vert pour cette petite pêche côtière artisanale, alors que tous les indicateurs sont au rouge pour la pêche industrielle.
Ah oui, dans votre rapport, on voit par exemple que les chalutiers de fonds industriels et hauturiers créent 2 à 3 fois moins d'emplois et presque 2 fois moins de valeur ajoutée que les flottes utilisant ce que vous appelez les arts dormants, c'est-à-dire les lignes, les casiers et les filets qui sont en effet beaucoup moins destructeurs. Alors une fois que vous faites cet état des lieux, qu'est-ce qui se passe? Qui l'écoute? Qui en tient compte?
Alors, pas mal de gens écoutent évidemment nos recommandations. Maintenant, c'est pas du tout une feuille de route, c'est un horizon qu'on vient de fixer. Et maintenant, il faut co-construire cette feuille de route avec tous les acteurs du secteur. Il faut bien évidemment démanteler une grande partie de la flotte de pêche industrielle, ces bateaux qui dépendent des subventions publiques, qui détruisent l'emploi tout en détruisant les écosystèmes marins et qui font le tour du monde chaque année en brûlant des quantités astronomiques de carburant. Donc on doit clairement démanteler une partie de la force de la pêche industrielle. On doit favoriser et faire la place pour la petite pêche artisanale et on a tout le milieu qui doit opérer une transition pour devenir plus vertueuse, moins dépendre des énergies fossiles, moins dépendre des subventions publiques et avoir un chemin d'avenir.
Oui, mais en face, il y a des emplois. Et puis, l'Union européenne s'était fixé un objectif de 100% de pêche durable pour 2020 qui n'a pas du tout été atteint.
Alors effectivement, il y a un objectif d'emploi, mais donc ce qu'on montre dans le rapport Changer de cap, c'est que c'est en faisant la place à la pêche artisanale côtière qu'on va générer des emplois.
Oui, mais ce ne sont pas les mêmes en fait.
Ce ne sont pas les mêmes, mais il peut y avoir des transitions qui sont faites, il peut y avoir des apprentissages. On peut aussi, il faut aussi savoir que par exemple en France, on a plus de la moitié des pêcheurs qui vont partir à la retraite dans les 10 ans. Ces pêcheurs-là, bien évidemment qu'on ne va pas les forcer à opérer une transition radicale en l'espace de quelques années. Il faut les accompagner pour leur retraite, potentiellement leur permettre de prendre une retraite anticipée. Et c'est avec les jeunes qui aussi sont plus à même d'opérer une transition radicale, qui sont aussi force de transition, qui veulent une transition dans le secteur de la pêche, qu'il faut construire une feuille d'avenir avec eux. Donc évidemment, ce n'est pas les mêmes métiers, ce n'est pas les mêmes pratiques, mais on voit très bien aussi sur le littoral que les endroits où il y a eu ce choix de déchalutiser en fait la pêche, on a eu des créations d'entreprises, on a eu des créations d'emplois et on a des écosystèmes marins qui sont beaucoup plus dynamiques. Donc c'est pas simple. Nous, on n'a pas la solution miracle. Maintenant, on a une photographie de ce qu'est le secteur de la pêche en France et il faut qu'on ait une vision politique qui manque jusqu'à présent. C'est vraiment une navigation à vue dans le brouillard de nuit. L'administration de la pêche en France. C'est délirant. Et donc, on a besoin de construire une feuille de route pour que d'ici 10-15 ans, on ait vraiment acté une réelle transition du secteur et qu'on fasse la place à ces méthodes de pêche-là qui sont les plus vertueuses, qui permettent de maintenir des économies littorales et qu'on ait abandonné ces segments complètement destructeurs d'absolument tout, sauf de la richesse de quelques intérêts très très privés et très concentrés.
Merci Frédéric Lemanac d'être passé dans ce studio. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à nous écrire c'estpasduvent@rfi.fr et vous pouvez retrouver des bonus de l'émission en vidéo sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.